France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 18 mai. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une utilisation plus simple du vaccin Pfizer qui peut se conserver un mois au réfrigérateur et non plus seulement 5 jours. Une annonce hier soir qui devrait permettre de faciliter la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé évoque lui la perspective d'un été sans masque à l'extérieur. Nous l'entendrons Agnès après les autres titres.
Les terrasses, c'est un véritable art de vivre à la française qui nous a tant manqué. On va les retrouver demain. Le mariage annoncé entre TF1 et M6 pour la naissance d'un mastodonte du PAF. Avec Jean-Philippe Deniau, nous verrons ce que contient précisément le projet de loi pour la confiance dans l'autorité judiciaire. Manger des graines, c'est bon pour le cerveau. Les Néandertaliens le savaient déjà. Et puis au Stade Toulousain, le rugby est une affaire de famille. Après Ntamack le père, Ntamack le fils. Et un même objectif, champion d'Europe.
Et nos invités ce matin à 7h50, Léa.
Et oui Nicolas, alors que rouvrent les terrasses et les musées, retour en arrière sur une année d'épidémie inédite. À la tête de la mission demandée par Emmanuel Macron pour évaluer la gestion de la Covid-19 par la France comparée aux autres pays, il dévoile en exclusivité sur France Inter ses conclusions. Le professeur Didier Pittet sera avec moi
à
7h50.
A tout à l'heure, à 8h20, à l'occasion de l'ouverture le 22 mai, ce samedi, de son musée à la Bourse de Commerce de Paris. Grand entretien exceptionnel avec le collectionneur d'art et fondateur du groupe Kering. J'ai nommé François Pinault.
France Inter. Le vaccin Moderna, désormais disponible en pharmacie, le Pfizer, désormais stockable jusqu'à un mois au réfrigérateur, et le vaccin Sanofi, désormais sur de bons rails pour une mise sur le marché avant la fin de l'année. Les bonnes nouvelles se sont accumulées hier sur le front de la vaccination. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech, donc, l'Agence européenne des médicaments a annoncé que les flacons pouvaient se conserver non plus 5, mais jusqu'à 31 jours, Mathilde Vinceneuf.
Jusqu'ici, c'était l'handicap principal du vaccin Pfizer-BioNTech, des flacons difficiles à stocker entre moins 60 et moins 90 degrés dans un supercongélateur. Frédéric Bizard, professeur d'économie spécialiste des questions de santé.
Ça réduisait l'accessibilité de cette technologie pour nombre de pays qui ne pourraient pas avoir des congélateurs adaptés. Et même en France, on voyait bien que ça réduisait quand même le côté pratique de la vaccination, puisque les médecins généralistes et les pharmaciens n'ont pas aujourd'hui accès, à quelques exceptions près, à ces vaccins.
Avec le développement de la recherche, les nouvelles doses de Pfizer-BioNTech pourront donc être conservées 31 jours dans le réfrigérateur d'une pharmacie ou d'un cabinet médical, et ça pourrait même être encore plus simple dans les prochains mois.
Un usage en monodose qui pourrait se suffire, avec une conservation en température ambiante, là, le vaccin ARN messager prendrait véritablement un avantage définitif.
Une conservation à température ambiante qui devrait être possible, selon le chercheur, à la rentrée avec la deuxième génération du vaccin.
En revanche, 4 nouveaux cas de thrombose, dont 2 mortels associés au vaccin AstraZeneca, sont survenus en France entre le 23 avril et le 6 mai dernier. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Moins de malades hospitalisés, moins de patients en réanimation, 4186. La situation continue de s'améliorer avec la perspective d'un été sans masque dans certaines conditions. Olivier Véran, hier soir sur BFM TV.
Si vous êtes seul ou quelques-uns dans un très grand espace, très aéré, comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, où là, on doit pouvoir être rapidement amené à pouvoir revenir sur l'obligation de port de masque dans cette situation.
Même quand on n'est pas vacciné.
Ce qu'on souhaite, c'est quand vous portez un masque, c'est davantage pour dehors, c'est davantage pour protéger les autres que vous-même. Donc, on ne va pas demander aux Français, enfin, je ne crois pas qu'on soit amené à demander aux Français de garder un masque sur la plage quand ils vont se mettre sur un transat cet été. Ce n'est pas encore la situation à l'heure à laquelle je vous parle. Le port de masque est obligatoire, y compris en extérieur. Mais avec la baisse de la circulation du virus, parce que si le virus continue de bien baisser et qu'on se retrouve dans la situation de l'été dernier, ça va être rapidement envisagé.
Le ministre de la Santé qui précise que la vaccination des moins de 18 ans en France se fera peut-être, mais pas tout de suite. Et c'est donc encore masqué que nous pourrons demain nous installer en terrasse pour boire un café ou déjeuner avec 5 amis maximum. Un véritable retour à la vie dans les bistrots de campagne et les troquets parisiens. Mathilde Dehimy a rencontré 3 étudiantes arrivées depuis peu à Paris et à qui les terrasses ont terriblement manqué.
Arrivée en septembre de Limoges, Amélie et ses copines ont d'abord testé la terrasse
cliché. Les petits bars sur les belles avenues où là, on va dans la petite terrasse, on prend un petit verre de vin, de dire « Oh, ça y est, on a notre petit béret, notre petit blazer, un petit plaisir quand on arrive en ville. »
La terrasse, c'est d'abord être vu. Profiter aussi du brouhaha, des bars, les uns à côté des autres, dit la jeune étudiante.
On cherche à être avec du monde, à entendre de la musique. C'est agréable d'être dehors, de voir la nuit tomber petit à petit.
Et c'est surtout un lieu de sociabilité, très codé, confirme Isabella.
Le contact aussi se fait plus facilement en terrasse. Il y a plus de cadre en fait à l'intérieur, alors qu'en terrasse c'est beaucoup plus fluide parce que tu peux parler avec la table à côté. En fait, je pense que la terrasse c'est vraiment la liberté parce que tu peux parler à n'importe qui, n'importe quand, rencontrer toutes sortes de personnes, alors qu'entre nous on est vraiment contraint à côtoyer le même milieu encore et encore.
Et quand on sort entre copines, on ne parle surtout pas des mêmes sujets qu'en soirée chez soi, explique Émilie.
Quand on est ensemble en appartement, il y a toujours un moment où ça va partir dans des sujets plus profonds, plus personnels. On va se confier, etc. En terrasse, non, c'est pas l'ambiance. On sera plus tenté de rester sur les sujets légers ou débattre, mais il n'y aura pas de sujet plus personnel.
Reste à trouver le bar idéal pour se poser demain. Les étudiantes n'ont pas encore d'adresse préférée, elles qui ont vu les terrasses fermées un mois seulement après leur arrivée à Paris.
Un reportage de Mathilde Dehémy et avec un couvre-feu qui passera demain à 21h.
Il est 7h06, Agnès, la naissance d'un nouveau géant du PAF.
Le paysage audiovisuel français secoué par l'annonce hier soir du mariage des rivaux d'hier. Bouygues, maison mère de TF1, va débourser 641 millions d'euros pour racheter 30% du groupe M6. TF1 et M6 possèdent à L2 10 chaînes de télé et la nouvelle entité capterait plus de 70% du marché publicitaire. L'autorité de la concurrence doit donc donner son feu vert, car cela pose un certain nombre de questions. Arnaud Mercier, sociologue des médias, professeur en communication à l'université d'Assas.
Les risques, c'est une forme de monopole sur le marché de la publicité. Fixer les prix, donc ça serait une pression sur les annonceurs. Le risque également, c'est d'avoir une force de frappe très forte pour faire pression sur les créateurs, que ce soit des émissions de jeux ou des séries télé, avec peut-être, dans un certain nombre de cas, un risque de remise en cause d'une forme de pluralisme. Parce qu'il y aurait des sortes de standardisation forcée, puisque c'est le plus gros employeur, donc c'est lui qui fixe un peu les règles. Et du coup, il y a un risque, effectivement, que le marché créatif s'assèche quelque part. Donc il y a effectivement des points de vigilance à avoir du point de vue des autorités pour éviter que les téléspectateurs à la fin voient la diversité de l'offre de programme un peu bouleversée.
Et les négociations entre TF1 et M6 pourraient durer près d'un an et demi. Le ministre de la Justice a, lui, 4 jours pour défendre devant les députés son projet de loi baptisé pour la confiance dans l'autorité judiciaire. 40 articles pour convaincre les 60% de Français qui ne font plus ou pas confiance à la justice. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Agnès.
Un texte de loi qui se veut pragmatique, Jean-Philippe, et que le ministre a construit à partir de différents constats d'inefficacité.
Oui, la justice est lente. Alors, pour réduire les délais de jugement, il généralise les cours criminelles départementales qui absorberont une partie des stocks des cours d'assises. La justice se rend trop souvent dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Alors, pour éviter les fuites dans les enquêtes, il renforce la protection du secret de l'instruction. La justice est laxiste. Alors, pour redonner du sens à la condamnation, il supprime les crédits de réduction de peine automatique des détenus d'une main et facilite l'accès au travail en détention de l'autre. Si les professions judiciaires admettent le constat, elles n'en partagent pas les remèdes et auraient préféré, plutôt qu'une nouvelle loi, des moyens supplémentaires pour faire appliquer celles qui existent.
Et autre mesure, l'entrée des caméras dans les prétoires.
Oui, alors ne vous attendez pas à pouvoir suivre un procès comme si vous y étiez. On en est très loin parce qu'il faut respecter des droits fondamentaux. La présomption d'innocence, le respect de la vie privée, le droit à l'oubli, entre autres. Pas de diffusion en direct donc. L'enregistrement sera soumis à l'autorisation de la chancellerie, de la juridiction, du président d'audience. Tous les protagonistes pourront exiger de ne pas apparaître à l'écran. La diffusion ne sera possible que quand l'affaire sera définitivement jugée et le film devra forcément être accompagné de descriptions de l'audience et d'explications pédagogiques. Un projet très encadré, trop peut-être, au risque de transformer la réalité d'un procès en publi-reportage.
Merci Jean-Philippe Degnaud. La France annule la dette du Soudan, soit plus de 4 milliards d'euros. Une annonce d'Emmanuel Macron alors que s'ouvre aujourd'hui à Paris un sommet international pour soutenir les pays africains. Avec en toile de fond la crise migratoire. Hier, ce sont plus de 5000 personnes, en majorité d'origine marocaine, qui ont tenté de rejoindre à la nage l'enclave espagnole de Ceuta. Des hommes, des femmes et beaucoup de jeunes, parfois même des enfants.
Il est 7h10, Agnès. Les hommes préhistoriques ne se lavaient pas bien les dents et c'est une aubaine pour pour les scientifiques.
Les paléontologues ont en effet pu étudier la plaque dentaire de 124 individus, dont 4 néandertaliens. Jamais la technique n'avait permis de remonter aussi loin, 100 000 ans en arrière, et de dénicher les bactéries encore présentes. Des bactéries qui révèlent de nouvelles informations. Sophie Bécherel.
Le séquençage de l'ADN ancien ne cesse de progresser, au point qu'on peut maintenant savoir quelles bactéries étaient présentes dans la bouche des hommes préhistoriques, mais aussi de nos cousins, les néandertaliens. Isabelle Crèvecoeur est paléo-anthropologue au CNRS et co-auteure de l'étude publiée dans PNAS, les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines.
Au fur et à mesure de la vie, on va avoir ces dépôts qui se font sur les dents et qui vont piéger à la fois des petits fragments d'aliments que l'on consomme, mais aussi les bactéries qui vivent dans notre bouche.
Des milliers d'espèces de bactéries différentes sont apparues et double surprise, d'une part, certaines sont inconnues à ce jour et on ne sait pas à quoi elles servent pour celui qui les abrite, mais surtout, le microbiome oral de Néandertal et celui de l'homme actuel sont très similaires.
L'étude, elle a mis en évidence la présence de bactéries qui sont favorisées par la consommation d'amidon. Donc, quelque part, c'est une signature supplémentaire qui vient renforcer cette idée que Néandertal, comme Homo sapiens d'ailleurs, consommait des tubercules, des graines qui préservent cet amidon.
L'amidon est une source d'énergie que les hommes préhistoriques ont su identifier dans leur milieu. Et parce qu'on ne retrouve pas cette bactérie capable de digérer l'amidon chez les autres primates, ces chercheurs émettent l'hypothèse suivante: le régime alimentaire avec graines et tubercules a peut-être contribué au développement du cerveau chez les hominidés.
Et pour tout savoir sur la plaque dentaire de nos lointains ancêtres, rendez-vous sur franceinter.fr. Enfin, la suite de notre série en terre d'Ovalie, à 4 jours de la finale 100% française de la Coupe d'Europe de rugby, Stade Toulousain La Rochelle, samedi à Twickenham. Direction Toulouse donc, où vous le savez Nicolas, même les mémés aiment la castagne, c'est ce que chantait Nougaro. C'est en tout cas une affaire de famille chez les Ntamack. Émile Le Père a fait les beaux jours du Stade Toulousain il y a 25 ans. Aujourd'hui, ses deux fils jouent au rugby, et notamment Romain Ntamack, famille Le Chevestrier.
25 ans après, le temps qui file fait sourire Émile Ntamack, capitaine du Stade Toulousain à l'époque, responsable de la formation du club aujourd'hui.
Oh, ça passe vite, 25 ans, quand on me dit ça, ça me fait pas rajeunir.
De l'humour teinté d'émotion, voir un père puis un fils sacré champion d'Europe serait une première dans l'histoire du rugby.
Aujourd'hui, je vois les attentes qui suscitent en permanence. On se rend pas compte, on a l'impression que c'est facile, mais ouais, il y a un regard admiratif, ouais, beaucoup. Ah, ça serait extraordinaire, c'est vrai que c'est tout le mal que je lui souhaite, que je leur souhaite, hein, parce que ces garçons-là, on les a vus grandir.
Des enfants qu'on a vus grandir, tout est dit sur la particularité du Stade Toulousain. Plus de la moitié des finalistes aujourd'hui ont été formés au club. Avec Émile Ntamack, 6 autres champions d'Europe 96 sont également toujours là, du président Didier Lacroix à l'entraîneur Hugo Mola.
C'est notre fonctionnement, cette transmission, elle a toujours été extrêmement forte. C'est une vraie famille, une communauté comme qu'on a créée. Rien n'est parfait, hein, forcément, mais on sent que les garçons voilà, sont animés avec une vraie fierté d'appartenance. Ouais. Et aujourd'hui, la récompense, c'est de briller et de dire voilà, c'est grâce à vous qu'on est là. Et je pense que c'est forcément une âme supplémentaire.
Et comme un symbole de ce trait d'union, samedi, aux côtés de Romain Ntamack, jouera Maxime Médard, qui a débuté sa carrière à Toulouse avec Émile, le papa.
Et ce périple de Toulouse à La Rochelle est à retrouver aussi sur franceinter.fr.
La Rochelle qui est votre équipe de cœur, Agnès Soubiran.
Oui.
Toulouse, pardon. Merci Agnès et rendez-vous à 9h tout à l'heure. Le zoom dans 3 minutes, aujourd'hui sur l'impossible compromis entre Israéliens et Palestiniens à Jérusalem.